Le jour où on m'a dit, va falloir faire tout seul.
Sébastien.
Bonsoir.
Ça va ?
Ça va très bien, oui.
Bonsoir aux auteurs d'Imaginaire. On est ensemble jusqu'à 22h. On aura quand même une chronique de Jean-Hugues hein, qu'il a enregistrée chez lui et qui nous a envoyé. On va s'écouter ça en début d'émission.
Et d'ailleurs, c'est l'anniversaire de Jean-Hugues aujourd'hui.
Ah bon ? Bah alors là, première nouvelle. Eh bien, bon anniversaire Jean-Hugues. Une chronique qui parle de la saga Harry Potter. Et puis, ensuite, c'est toi qui vas nous parler livre-jeu.
Oui, donc ce qui est très intéressant, c'est que c'est des titres en fait qui sont réédités par des maisons d'édition associatives et qui ont pour mission vraiment de faire redécouvrir, voire même de faire découvrir en fait des livres dont vous êtes le héros qui sont passés dans les oubliettes, comme sortis dans les années 90 à un moment où les livres dont vous êtes le héros commençaient un petit peu à moins avoir de succès.
Ouais. Et peut-être c'était tiré en faible tirage. Et là, donc, tu vas nous ressortir...
Les héritiers de Dorgan.
Donc, c'est réédité par qui, ça ?
Scriptarium.
Ouais.
Qui okay. travaille déjà main dans la main avec Gallimard pour donc faire sortir des DF inédits tels que Les Mystères de Salamonis, le tout dernier. Et également... Donc là, c'est la version Gallimard que j'ai à l'étoile de la destinée, mais j'ai commandé la version chez Alconost. Donc également un destin. Et là, c'est en plus ce qui est bien, c'est que c'est des livres dont vous êtes l'euro, comme tu sais, Romain, qui ont une certaine valeur, voire trop grosse valeur,
marchande
sur le web. Et grâce à Alconost, Scriptarium, on peut avoir ces livres dont vous êtes l'euro à des prix honnêtes.
Ouais, ok. Et puis en troisième partie d'émission, on écoutera l'interview de Karim Berouka et Aurélie Wellenstein que nous avions enregistrée à l'Angers Geek Fest. Donc, deuxième et dernière interview, je pense qu'on va passer de l'AGF dans cette émission. On les avait topés un petit peu le samedi matin avant leur table ronde. Non, c'était dimanche matin. Oh, j'ai un gros doute. Et sur le studio mobile de Radio G qui était, on va dire, dans la partie d'accueil du Parc Expo pour l'AGF. Et je vous propose de... Ouh là là, ça commence mal, il me met erreur encore. Super, ça, je la sens bien cette émission. Voilà, c'est la catastrophe. Eh ben, il va falloir nous chanter des trucs. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter la rubrique de Jean-Hugues tout de suite. Donc, bon anniversaire Jean-Hugues. Et voilà, ta chronique un
chronique
petit peu plus tôt
prévue. Chronique pleine de magie en plus.
Oui.
Félicitations, Reggie, c'est un calamar.
Chers auditeurs, ma chérie, bonjour. Alors, j'ai décidé de vous parler du cycle d'Harry Potter. Oui, je sais, ça paraît étrange, mais vous allez comprendre assez vite. Alors, il faut déjà le savoir, je n'aime pas Harry Potter. Je trouve que c'est le prototype du petit con sur lequel est tombé un pouvoir démentiel accidentellement. Un peu comme Bernard Arnault, par exemple. Je n'aime pas non plus Albus Dumbledore. C'est un manipulateur de premier ordre aux motivations souvent bien floues, et même Severus Rogue le regarde consterné parler d'Harry Potter, puisqu'il lui dit « Vous l'avez élevé comme un porc que vous menez à l'abattoir, ce que ne dénie pas le gentil Albus. » Alors pourquoi en fait-il la chronique, vous allez me dire. Alors, un peu d'histoire. J'ai lu et vu l'Harry Potter au fur et à mesure de leur sortie. ou plutôt, concernant le roman, à la sortie du prisonnier d'Azkaban, sous les conseils d'un ami. Alors, soyons clairs, du coup, j'ai trouvé les deux premiers opus de peu d'intérêt, mais je suis resté très surpris par le troisième. En 2005, je deviens papa d'une adorable enfant, quelques mois avant la sortie de Le Prince de Sang-Mêlé. Une chose encore, ma charmante épouse est famille d'accueil pour l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, ce qui veut dire que nous accueillons des enfants, généralement des ados, qui s'extasient devant le fait que nous tenons à leur disposition une télévision et, entre autres, les films d'Harry Potter qui tournent donc quasiment en boucle. À tel point qu'il est nécessaire d'en remplacer grosso modo un par an, cassé ou rayé ou disparu. L'adorable enfant, qui est donc né, et que nous appellerons Lana pour faciliter les choses, a 3 ans et demi et adore que son papa, votre serviteur, lui lise une histoire avant de dormir. Nous lisons donc un chapitre de Peggy Sue de Serge Brussolo tous les soirs, trouvant les contes de Grimm et autres Andersen un peu trop violents. L'obstination des ados à regarder Harry Potter suscite la curiosité de Lana, qui aimerait bien les voir elle aussi, à 3 ans et demi. Alors je lui propose donc de lui lire les Harry Potter et à la fin de chaque livre nous regarderons le film ensemble. Ce qui fut fait. Lana a appris à lire à 5 ans. Un an plus tard et de manière tout à fait étonnante, des chapitres sautaient entre 2 sessions de lecture. Nous lisions donc un volume et regardions le film, comparions les 2 expressions de la même histoire. Car je le dis bien net, en dehors d'une trame scénaristique commune, les 2 versions peuvent être très différentes, avec des personnages très importants dans le roman qui disparaissent complètement dans la version film. La première moitié du livre, Les Reliques de la Mort, est très différente du premier film du même nom, où on insiste lourdement sur le camping des 3 héros qui est, reconnaissons-le bien, de peu d'intérêt. Ma charmante épouse, que nous appellerons Carmen pour faciliter les choses, n'avait ni lu ni vu Harry Potter. Je réussis à la convaincre récemment de regarder les films avec moi. En fait, elle avait vu de nombreux et larges extraits des premiers, qui avaient la préférence de nos ados accueillis quand elle était avec eux et se livrait à des travaux domestiques. J'ai donc revu la saga sans avoir relu les livres. Eh bien, c'est affligeant. Le fait de regarder le film après lecture du livre recase la trame du scénario qui, dans les films, est indigente. Alors attention, là, je vais faire un spoiler. Ouais, je sais, ça concerne 2 auditeurs qui n'ont vu ni les films, ni lu les romans. Donc, en dehors du twist de la mort de Dumbledore et celui des révélations de Severus Rogue, rien n'a réellement fait frémir ma charmante. Bon, ne gâchons pas complètement notre plaisir, il existe quelques endroits que nous sommes heureux de voir, comme le terrier des Weasley ou le domaine de Poudlard. En même temps, Poudlard Legacy permet de visiter tous les environs de Poudlard et de visiter tout le château, et c'est super beau. Je ne vais pas relire le cycle, ce serait la 3e fois. En revanche, on peut se demander pourquoi pas une série, genre une saison par bouquin, qui prendrait le temps de coller à l'œuvre de J.K. Rowling. Tiens, en parlant de l'auteur, j'ai une réflexion du genre, tu te rends compte que tu vas faire la promotion d'une femme qui est accusée d'être transphobe ? Alors, la transphobie, c'est mal, il n'y a aucun doute. Bon, alors venant d'un monsieur qui avait lu 2 ans auparavant Voyage au bout de la nuit de Céline, j'avais trouvé la remarque amusante. Mais bien entendu, rien dans l'œuvre de J.K. Rowling ne laisse transparaître cette transphobie, ou bien j'ai raté des choses, ce qui est possible. Sinon, Poudlard Legacy, ben vraiment, je me tatouille. Peut-être quand je serai à la retraite. Mince, je suis à la retraite. Bon, ok, je travaille 4 demi-journées par semaine au phénomène Gidingrande-sur-Loire, où je n'ai pas encore vu tout le monde, et j'ai les noms. Et je vous prépare une surprise avec le sieur Robert le Martien d'Arvel et messire Jérôme Infarctus Vercheren. J'espère pouvoir vous en parler avant la fin de l'année. Donc, non, je ne jouerai pas tout de suite à Poudlard Legacy, mais j'ai vu de nombreuses vidéos et photos, et sans prendre de risque au niveau du jeu lui-même qui semble assez répétitif, mais Final Fantasy VII ne l'était-il pas ? C'est d'une rare beauté. Bon, allez, j'y jouerai dans 10 années si Cthulhu nous en laisse l'occasion.
On aura un peu tous les styles de musique dans cette émission ce soir, vous allez voir. C'était John Williams, la BO du premier film d'Harry Potter, Harry Potter à l'école des sorciers. C'était sorti en 2001 et là c'était le thème de Hedwig. Alors c'est l'heure de la chronique de Sébastien et donc je lance ton jingle.
Là, je vais faire un petit lien avec Harry Potter parce que Romain, tu dois le savoir, mais peut-être pas tous nos auditeurs. Le traducteur de la saga d'Harry Potter, Jean-François Ménard, est lui-même auteur d'une série dont vous êtes le héros, Les Messagers du Temps. Donc une série française, il a traduit également d'autres livres dont vous êtes le héros. Le Marais aux Scorpions, entre autres.
Ah ouais.
Et avec un style plein d'humour. Ce qu'il habille vraiment même d'humour les noms des personnages, comme on voit dans Harry Potter.
On l'invitera un de ces quatre à Angers pour parler traduction de J.K. Rowling.
Il n'est pas très interview, mais si vous voulez en apprendre plus sur ce truculent personnage, et qui se met même en scène dans un de ses messagers du temps, eh bien lisez le MOOC, le cinquième MOOC du Marteau et l'Enclume, qui est commandable sur Amazon, pour en apprendre davantage sur sa personne et sur la série de Les Messagers du Temps.
C'était quoi le thème de ce MOOC?
Alors c'est un MOOC qui était dédié aux séries dont vous êtes le héros française, Les Messagers du Temps, et ce dont je vais vous parler à l'instant, Le Monde de Dorgan, Les Défis et Sortilèges.
Donc ça aussi c'est français, parce que Les Messagers du Temps, il n'avait pas sorti ça sous un pseudo anglo-saxon?
Alors à l'époque c'était un souhait de Gallimard, soi-disant parce que ça se vendrait mieux.
Ouais.
Avec un nom anglo-saxon pour faire lien avec les premiers livres dont vous êtes l'héros, Ian Livingstone, Steve Jackson.
Ok.
Mais pour Défi et Sortilège, là j'ai la version Gallimard donc de Les Héritiers de Dorgan. C'est le cinquième, puisque c'est une série qui comporte 8 tomes, deux cycles en fait, le premier et un second. Donc c'est ce dont je vais vous parler ce soir, c'est de Gildas Sago.
Et là, Ça fait bien français. Ouais.
C'est bien français.
Ouais.
Rôliste de base, et que doit connaître, je pense, de nom Jean-Hugues.
Bon anniversaire Jean-Hugues, on ne le répétera jamais assez. Alors jolie couverture, je ne sais pas si on en parle tout de suite, mais...
Alors ce qui est marrant, c'est que celui qui a fait la couverture donc des Héritiers de Dorgan, eh bien cette image Romain, figure-toi, je ne l'ai pas retrouvée du tout dans le bouquin. Donc en fait, c'est pour dire...
Ça aussi c'est mensonger.
Oui. Alors on voit une pieuvre donc voilà qui ouvre
avec
ses tentacules. On a un château un peu de conte de fées derrière.
Complètement.
Mais je ne suis jamais tombé dessus.
Ok. Alors est-ce qu'il y a un petit côté Cthulhu dans cette histoire? Côté Lovecraftien, pas du tout.
Du tout. Okay. Après c'est plus moi ça m'évoque un peu le côté féerie avec ce château en arrière-plan, avec la brume et les couleurs aussi violettes qui sont très belles. Et c'est vrai que de féerie, de poésie même. On en retrouve dans l'écriture même de Gildas Sago. Et là, je vais vous lire un peu le quatrième de dos, donc, de la version éditée, rééditée par Scriptarium, puisque le résumé n'est pas le même entre...
Il est la moins mensonger le nouveau, j'espère.
Le quatrième de dos, c'est à peu près la même chose.
Quand même.
Alors, après 50 ans de paix, les peuples du monde d'Organ prospèrent. Ils lorgnent depuis peu sur les terres inexplorées au-delà du golfe de Sirte. Un village de pionniers y a été établi, mais aucune des dernières expéditions n'est revenue de cette région aux dangers inconnus. C'est pour enquêter sur ces disparitions et découvrir ce qu'il est advenu des premiers colons que les héritiers de Dorgan, Yamael le démon, Galidou l'illusionniste, Valkyr le paladin et Lorin le barde sont convoqués par le conseil des seigneurs de Dorgan. Et c'est la première scène qui va s'ouvrir au début de l'histoire. Et en fait, tous ces personnages, Valkyr, Galidou, Yamel, Lorin, ont des liens avec les premiers héros des premiers défis et sortilèges qui n'ont pas disparu.
Hein,
puisqu'on en retrouve au conseil donc des seigneurs de Dorgan.
Alors, première question, est-ce qu'on joue un de ces personnages?
Alors moi, c'est ce que j'adore donc dans ce livre-jeu que je recommande chaudement. D'ailleurs, donc le prix est de 14,50 €, alors que là, la version Gallimard, elle est à plusieurs dizaines d'euros.
Oui, j'ai jamais vu ce livre.
Alors tous Tout l'intérêt donc de ce cycle par rapport au premier, c'est qu'on peut mener une équipe solo, donc de les quatre personnages ensemble.
On joue les quatre.
Alors c'est vrai qu'il n'y a pas encore énormément d'interaction dans le premier, Les Héritiers de Dorgan, qui est un peu une longue introduction à la suite. Donc c'est un peu comme Loup Solitaire, Romain, auditeur. Donc il faut, pour bien profiter, il faut lire comme Loup Solitaire, donc tout, mais du début à la fin, mais pas lire par exemple, tiens, je vais lire le septième.
Ouais, ouais.
Et c'est perdre de l'histoire. Parce que dans le cinquième, déjà, on apprend énormément de choses sur nos héritiers. D'ailleurs, ils ont des fiches vraiment qui rappellent qui ils sont et qui durent au moins plusieurs pages à la fin.
Ok. Mais donc, on joue les quatre personnages.
On joue les quatre. En fait, tu as une carte, un index, tu vas de tel point à tel autre point, et par moment, on te dit, tu as tel choix à prendre. Et tu vas te reporter au livre des héros, et à ce moment-là, tu peux choisir, par exemple, Laurin Lebarde. Alors, par exemple, à un moment donné, on fait la traversée donc du golfe de Sirte pour se rendre à Terra, où il y a ce fameux village de pionniers, Palan. Eh bien, moi, je me suis dit, moi, j'ai appris des choses sur Laurin Lebarde, qu'il a le pied marin.
Ouais.
Je me suis dit, bon, là, c'est fastoche, je vais opter pour notre ami Laurin Lebarde. Et tiens-toi bien, donc on va au choix 7 du livre des héros. Donc là, je
dis pas qu'il se noie.
Non, non. Donc ils ont chacun les... En fait, il y a 15 paragraphes pour chaque personnage. Mais si je vais au choix 7 de Laurin, bah, je ne saurais pas ce qu'il en advient de Galidou, Valkyr et Yamael. Alors là, je vais donc au paragraphe 7. Et là, tadadingue, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si ce voyage devait durer encore un bon mois, parce qu'il aime apprendre des choses de la mer et tout. Et si vous n'aviez cette impression désagréable qu'un grave péril menace votre navire, vous devez en avoir le cœur net. C'est pourquoi vous avez demandé au capitaine l'autorisation de prendre la dernière heure du quart de l'homme de vigie. Donc, en choisissant ce personnage, il a déjà un pressentiment de quelque chose qui va se passer. Et ça peut nous aider par la suite, lorsque cet événement va arriver, ah oui, c'est vrai que Laurin nous a appris des choses donc sur ce qui va arriver pour le navire. Et donc, on peut-être éviter le PFA, la fin d'aventure, en se souvenant des informations qu'il va récolter.
Ok.
Donc, c'est à nous aussi de faire des choix judicieux, de dire, un tel par exemple, personnage n'aime pas la mer, il a le mal de mer, il va se cloîtrer dans sa cabine. Donc là, on va pas pouvoir avoir d'informations pour le coup.
C'est comme une équipe de jeu de rôle, en fait, où souvent on dit, on demande plutôt aux voleurs d'aller détruire le piège et puis aux guerriers d'aller taper sur le troll qui arrive de l'autre côté du couloir, quoi.
Et ce qui est bien, c'est qu'on navigue, par exemple, de temps du livre, le livre principal, et hop, on va dans le livre des héros et on revient au livre principal.
Donc il y a deux livres?
En fait,
le livre est divisé en deux.
Voilà, il y a l'histoire principale, mais qui a aussi des liens donc avec le livre des héros. En fait, on navigue entre les deux.
Ok.
Voilà, c'est ça qui est très intéressant. Et là, tu parlais de jeu de rôle à un moment donné. Donc ça, c'est mon petit côté, j'aime bien pimenter la chose. Bon, l'auteur n'a pas été au bout un peu de son idée. À un moment donné, on rentre dans un tunnel qui est très étroit, donc on peut pas marcher de front.
Et ouais.
Donc je me suis dit, si vous voulez pimenter le jeu, je vous conseille. Bon, j'ai choisi le paladin. Le paladin ouvre la marche. Et donc, je sais que c'est lui que je vais choisir, en fait, automatiquement en choix. Et il s'avère qu'on a un géant à deux têtes qui l'attaque. Et forcément, ce géant de tête est très costaud. Et j'ai bien fait de choisir le paladin pour pouvoir le bastonner. Mais derrière, j'ai Galidou qui peut m'aider par ses sorts pour diminuer aussi le score de combat de l'adversaire. Donc c'est vraiment tout l'intérêt, en fin de compte, des héritiers de Dorgan, c'est d'avoir la possibilité de jouer tel ou tel personnage, et ça permet même d'avoir une petite rejouabilité si on reprend l'histoire au début, pour pouvoir découvrir un peu plus
le
point de vue des autres, et sachant que à chaque choix qu'on prend d'un personnage, il gagne en légende, comme des points d'expérience. Et le risque, c'est que si on prend toujours le même personnage, c'est que lui devient encore plus fort et que les autres le deviennent moins. Et il s'agit aussi d'équilibrer un peu tout le monde.
Ok. Donc Donc on veut bien croire que Gilda Sago a fait du jeu de rôle peut-être avant d'écrire ça. Oui. Alors c'est sorti en quelle année ça
alors, lui, cette série alors les premiers dans les années 80, il a voulu faire mieux. Et donc Les Héritiers de Dorgan, lui, était sorti en 91.
D'accord, ok.
En 91. Et donc Scriptarium a eu l'idée, bon, Gilda Sago est malheureusement décédée, de ressortir donc, mais plutôt les 5e, 6e, 7e et 8e, qui sont, on va dire, mieux que les 4 premiers.
Ok.
Pour okay, pouvoir jouer vraiment tout seul, alors que les 4 premiers, c'était plus pour jouer chacun avec son livre. Et c'était pas forcément excellent.
Donc ils rééditent pas les 8?
Là, ils vont rééditer que du 5 au 8.
D'accord, ok. Le deuxième cycle, en fait.
Le deuxième cycle, voilà. Dont okay. Gilda Sago était très fière. Et puis ça permet aussi de remettre en avant donc cet auteur qui est un peu passé aux oubliettes, malheureusement.
Il a fait d'autres choses, sais-tu?
Il a écrit aussi un livre sur les jeux de rôle, tout savoir sur les jeux de rôle, et les livres dont vous êtes le héros en 86.
D'accord.
C'est un peu un pionnier. Et cet ouvrage, si vous êtes curieux, il a été réédité par Posidonia. Et donc, pour parler un petit peu là plus brièvement, je vais vous faire un dossier donc pour le mois de juin autour de Mark Smith, donc qui est connu pour La Voix du Tigre, mais qui a également écrit Des Destins, une série où on joue sans dés, L'Étoile de la Destinée et Le Peuple Maudit, alors qui ont pour particularité d'être liés un peu, puisqu'on parle d'une cité, Gondorno, qu'on retrouve dans les deux ouvrages.
Qu'on peut comparer à Venise, non? C'est ça? C'est celle-là?
On peut, c'est une cité corrompue. Alors le problème, c'est qu'à l'époque, donc c'est sorti dans les années 90 chez Gallimard, on n'a pas toutes les illustrations. Il y a des bugs.
Les illustrations de la version originale.
De la version originale, il y a des bugs. Et même des problèmes de liaison entre paragraphes qui font que on a du mal à s'immerger dans l'histoire. Or, bonne nouvelle les amis, vous pouvez désormais, à un prix donc très honnête de 14,90€ par ouvrage, les obtenir chez Alconost. Alconost, une autre maison d'édition associative, comme Scriptarium. Donc ils ont un site. Alors Alconost, c'est particulier parce qu'ils sont en relation avec le Plumier des Chimères,
oui.
Donc Posidonia, et on peut commander directement sur le site. Donc L'Étoile de la Destinée,
des boutiques de jeux.
Voilà. Le Peuple Maudit, dans des versions corrigées. Il y a un vrai travail de fond qui a été fait. C'est vraiment des travaux pour moi de qualité. Scriptarium, Alconost, Posidonia, pour qu'on ait vraiment un plaisir total de rentrer dans l'histoire. Et ça permet aussi donc de redécouvrir des ouvrages qui sont passés à la trappe, en fait.
Alors, il y a aussi un intérêt, peut-être, c'est l'état du livre, tout simplement, parce que des livres
comme tu vois, celui-ci,
qui ont 40 ans... qui avait pas toujours une super reliure, il y en a certains en fait.
Et L'Étoile de la Destinée, pourquoi je vous en parlais plus la prochaine fois, il parle d'écologie.
Ah,
il nous dit que on a un héros en fait, pour faire bref, qui va essayer de sauver une forêt de la destruction,
okay,
et devoir faire aussi
original.
Équipe avec des elfes qui sont très méfiants envers les êtres humains.
OK. Et moi j'ai aussi un destin sous les yeux là de chez
Alconost.
Ouais, alors c'est quoi?
L'hiver des hommes, donc du post-apocalyptique. Ouais. Il y en a pas beaucoup. Il est plutôt pessimiste, mais c'est aussi un livre dont vous êtes le héros, qui est un peu le reflet de ce qui pourrait nous arriver, un peu comme dans L'Étoile de la Destinée. Vous voyez bien aujourd'hui ce qui se passe avec le changement climatique, oui. À force de qu'il y ait de la déforestation. Eh bien, moins il y a d'arbres, plus il fait chaud.
Bon, là, l'hiver des hommes, c'est plutôt l'inverse.
Là, c'est la période très glaciaire.
Ouais.
Et il va falloir essayer un peu de sauver un peu notre planète d'une intelligence artificielle qui est devenue folle et qui veut, en fin de compte, le bien des humains. Mais en même temps, bon, elle les a précipités dans l'air glaciaire.
Et donc ça, c'est pas une réédition, par exemple?
Alors ça, il y a eu... Alors c'est une réédition, en quelque sorte, puisque ça avait été... paru chez Megara sous le titre Cœur de glace.
Megara qui était une
maison d'édition mais qui a disparu.
Qui avait fait des livres jeux. Ah oui, canoise, mais vraiment de luxe. Hein,
ouais, de luxe, collector.
Voilà, c'était bien 35€ le livre. Après, tu avais une carte et tout, plein de belles choses.
Voilà, avec cette version, vous avez déjà tout. Hein.
Et c'est Dave Morris
qui a écrit également Des Dragons d'Or.
Ouais, et puis les illustrations, c'est Russ Nicholson.
Russ Nicholson, et alors je vous apprends, auditeur, qu'il est décédé il y a quelques temps.
Quelques jours ou quelques semaines, hein, je crois. C'est,
ouais, c'est vraiment récent, très récent. Ouais. Et ses illustrations sont vraiment de toute beauté. Il a d'ailleurs également fait les illustrations de l'épée de légende. Et je soupçonne Gilda Sago de s'être un peu inspiré d'un peu des moteurs de règles de l'épée de légende pour les héritiers de Dorgan. Alors je vais peut-être un peu loin. Dans l'épée de légende romain, on peut également diriger une équipe de 4 personnages, voleurs, magiciens, prêtres, chevaliers. Et il y a un petit peu de ça dans les héritiers de Dorgan, en plus simple, car l'épée de légende, malheureusement, les règles sont buggées, archi-buggées.
Ah ouais.
Bon. Et je vous annonce encore une bonne nouvelle, c'est qu'une des maisons d'édition, je ne sais pas encore laquelle, va certainement la rééditer comme Dave Morris. C'est quelqu'un de très abordable, de très sympathique et qui est très, très heureux que nous, en France, nous pouvions redécouvrir ces fabuleuses histoires grâce à Alconost, Posidonia et Scriptarium, dont je ne remercierai jamais assez.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Russ Nicholson, c'est aussi quelqu'un qui dessinait du Donjons et Dragons, si je me souviens bien, le jeu de rôle. Et je crois que c'est l'illustrateur du Sorcier de la Montagne de Feu aussi, les illustrations intérieures.
Ouais. Bien vu. Okay. Et on en apprend un peu plus sur lui également dans un des MOOC, le 7e du Marteau et l'Enclume. C'est une de ses dernières interviews d'ailleurs qui est dans les pages.
Ok, très bien. Bon, et ben, on a toutes les informations là. Et je vous propose qu'on enchaîne avec ton choix musical.
Voilà, un choix musical
original. On l'a original, jamais passé dans l'émission.
À contre-courant, sur le 101.5 FM.
On dit pas qui c'est.
Il me panique, d'électrocution, mon isolant, c'est la passion.
imaginaire sur le 100.5.
Un peu de vent frais, là il fait chaud en plus.
Oui, c'est vrai qu'il fait chaud, c'est la première fois qu'on la passe dans cette émission. Et sans transition, on va passer à Karim Berouka et Aurélie Wellenstein qu'on avait interviewé à l'Angers Geek Fest. Et on commence par un morceau de Karim Berouka, la BO de son livre Le Club des Punks contre l'Apocalypse Zombie.
Sans regard pour l'abîme, Kropotkin contre tous s'élève vers les cimes. Allez braver la mort à deux doigts du soleil, annoncer à la foule que l'anarchie s'éveille. Non, rien n'empêchera son immense drapeau noir de flotter délivré des chaînes du pouvoir. Kropotkin se laisse porter par le vent prêt à renaître, enivré de liberté. Il ne connaît ni Dieu ni maître. L'ascension, le vertige l'a guéri, son cœur bat la rébellion. Sans peur et sans gloriole, atteindre les sommets, pour y laisser flotter un message clair et pur. Aujourd'hui l'anarchie a subjugué Paris, et le ciel en frissonne, et l'État se fissure. Kropotkin se laisse porter par le vent prêt à renaître, enivré de liberté. Il ne connaît ni Dieu ni maître.
Accorde quelques minutes de recueil. Il regarde le tissu noir qui claque, excité par le vent. La main sur le cœur, il se met à chanter. Debout, debout, vieux révolutionnaire. Et l'anarchie, enfin, va triompher.
S'écouter un extrait de la bande originale d'un livre.
Tout à fait.
Vas-y, présente parce que ça tombe bien, on va parler de toi.
Présente-moi.
Karim Berouka, l'auteur le plus punk de la scène française, peut-être accompagné pas. De la douce voix d'Ori Wellenstein, l'autrice en vogue sur la dystopie, et un petit peu l'utopie quand même. La fin est plutôt utopique, mais tout le reste de tes romans est dystopique. Ça fait plaisir de vous avoir à l'Angers Geek Festival, 4e édition à Angers. Et du coup, Karim, parle-nous un peu de cette bande originale d'un livre.
Et bien, après avoir fait le livre, n'ayant plus rien à faire, je me suis dit, faisons la musique du livre. Et donc, j'ai fait des chansons sur certaines scènes du livre, là. Voilà, qui sont des...
Quel est ce livre ?
Ce livre s'appelle « Le Club des Punks contre l'Apocalypse Zombie ». Et c'est pour ça, puisque dans le roman, les punks font de la musique. Eh bien, elles la font pour de vrai maintenant. Mmh. C'est fabuleux.
Et ça, tu l'as fait tout seul alors, ce disque ?
Avec mes petits doigts.
Même les voix de filles ?
Non, pas la voix de fille.
Ah, tu
la
vois ?
La voix de fille, j'ai engagé ma compagne pour chanter, qui chante plus juste que moi, ça tombe bien. Et mais non, avec les ordinateurs et quelques instruments de musique, on peut faire beaucoup de choses maintenant. Mmh.
Alors, du coup, je reviens un peu sur tous les deux, puisqu'on n'a pas encore entendu Aurélie, et c'est à elle que je vais donner la parole. Vous êtes là tous les deux dans une édition du Geekfest dont le thème est utopie, dystopie, et il va y avoir dans pas longtemps, à midi exactement, une table ronde sur la moralité dans l'imaginaire. Quand on vous parle utopie et dystopie, à quoi penses-tu, Aurélie ?
Moi, l'utopie, ça m'évoque plutôt... C'est un sujet très important actuellement, parce que c'est vrai qu'on a... La dystopie a été à la mode pendant des années, et de quel imaginaire on veut en fait pour les gens? Est-ce que on n'est pas en train de normaliser des images de sociétés autoritaires et violentes? Est-ce qu'on n'a pas besoin justement de remettre un peu dans le mur des briques plus optimistes? C'est un débat qui agite beaucoup la sphère de l'imaginaire actuellement. On se demande voilà qu'est-ce qu'on écrit maintenant après avoir écrit tant de dystopies. Est-ce que c'est pas le moment de passer un peu à autre chose? Moi je suis pas sûre hein, parce qu'en fait après, à titre personnel, de mes goûts, je préfère effectivement lire de la dystopie et des récits sombres par attirance personnelle.
Mais il y a un certain paradoxe parce que l'utopie de Thomas More est la plus célèbre des dystopies au final. Quand on lit la fin, est-ce que écrire de l'utopie, c'est pas justement imaginer le pire dans le meilleur, la dictature du bien?
C'est possible. Après, moi, je n'en écris pas personnellement. Donc, ce que j'ai commencé à tendre dans mes récits, dans mes derniers récits, parce qu'avant, j'écrivais des récits vraiment qui se finissaient de façon très sombre, très pessimiste. Et désormais, j'essaie d'apporter de la lumière qui traverse au moins ces histoires sombres. Et que les personnages éclairent les ombres. Mais de là à écrire de l'utopie, j'en suis pas encore là.
Et toi, Karim, utopie, dystopie, toi, tu t'en as rien à faire. T'écris ce qui te plaît.
Un peu comme tout le monde. Non, mais je suis d'accord avec Aurélie. Moi, j'aime. Bah, déjà, je trouve que narrativement et dramatiquement, c'est plus intéressant un monde dans lequel les choses se passent mal qu'un monde où tout se passe bien et moins de choses à raconter. Mais c'est vrai que quand tu dis que la dystopie, c'est pas forcément pour montrer ce qui est mal, c'est pour le dénoncer aussi. C'est une extrapolation du présent en disant voilà, on va vers ça, on risque. Meilleur exemple, 1984, où finalement, voilà, c'est un roman qui est assez visionnaire.
Ouais, mais il finit mal. Hein.
Ah bah non, mais de toute façon, les romans souvent finissent mal, sauf. Enfin, c'est pas très grave ça.
Par Night 451, ça finit bien.
Ouais, ils brûlent tous à la fin. non, mais je veux dire, c'est pas tellement la fin, c'est pour le ressort dramatique, c'est bien. Voilà, ça finit mal, ça finit pas bien. C'est tout ce qu'il y a avant la fin qui va construire une idée, un monde. Et moi, je trouve plus intéressant qu'on dénonce les travers de notre monde actuel en les poussant à bout, quoi. Enfin, en faisant des dystopies, justement, voilà.
Pour revenir à tes romans, Aurélie, dans tes romans, quel est le plus important? L'univers dystopique dans lequel se déroule tout le roman, ou le personnage, la symbolique du personnage?
Dans mes récits, enfin moi, ce qui m'intéresse en tant qu'autrice, c'est vraiment les personnages. Je pars beaucoup d'eux. Mais j'ai pas forcément le personnage qui me vient en premier. C'est vrai que parfois, ça peut être l'univers qui arrive. Dans Mère Morte, c'était le cas. C'est l'univers, donc dans Mère Morte, c'est... une histoire où l'homme a tué la mère, où la mère revient sous forme fantôme hanter les humains. Donc cette idée-là est venue en premier, et après j'ai mis les personnages dedans. Mais
je te coupe 30 secondes. Quand tu dis que la mère est morte, tu veux parler des poissons?
Non, vraiment tout l'écosystème. Donc effectivement, on a une mère fantôme avec des vagues fantômes qui déferlent sur le monde et qui déferlent absolument partout, qui peut recouvrir Angers, qui peut recouvrir Paris. Elle est fantôme, elle va où elle veut, et dans ces flots, effectivement, il y a des poissons fantômes qui dévore l'âme des humains. Donc, c'est vraiment une vengeance de la nature. Donc ça, c'est l'idée du roman, l'univers. Et après, donc, j'ai mis des personnages dedans, un personnage d'exorciste, un personnage de pirate qui navigue sur les mers mortes, un dauphin fantôme. Et à partir de là, moi, c'est plus à eux, finalement, que je vais m'intéresser et les faire grandir et évoluer dans ce monde foutu, quoi. Donc oui, les personnages, avant tout.
Et toi, Karim? Je prends par exemple le club punk contre l'apocalypse zombie. Quel était plus important, de montrer la fin de l'humanité avec les zombies ou de mettre en avant des personnages qui n'en avaient de toute façon rien à faire de la fin de l'humanité?
Je pense pas que ce soit très intéressant, les zombies, hein. La vie des zombies. Il faut leur demander, mais C'est toujours les histoires de zombies. C'est le zombie, c'est le faire-valoir du groupe de survivants. Alors, et ben là, c'est des punks. C'est des punks qui, effectivement, prennent pas tellement la mesure de l'ampleur de la catastrophe et qui décident de, ben, que, et profitons-en. Établissons enfin une, pas une démocratie, parce qu'ils veulent aller plus loin, un régime égalitaire, libertaire, et sauvons le monde.
Ça t'est venu comment l'idée d'ailleurs?
Écoute,
est-ce que tu regardais un truc de zombies et puis tu t'es dit, tiens, si des punks étaient là?
J'étais à Paris et je voyais passer les zombies. Non, j'ai. Alors, pour les zombies.
Parisiens, quoi.
Pour les zombies, j'avais bossé sur la correction de trac de pas mal de bouquins de zombies. Et je trouvais que c'était un peu toujours la même histoire. Et puis, en regardant certains films qui décalaient un peu les archétypes, je me disais, ah, c'est quand même marrant, on pourrait faire un truc, mais pas avec des survivalistes de
Walking Dead.
Donc, voilà, Walking Dead, c'est vraiment le truc archétypal qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein. Moi, j'ai bien aimé le début, mais je voulais justement mettre des personnages qui ne correspondaient pas à ces archétypes. Donc, et ben, mettons des punks, en plus, pas très nets parce qu'ils ont fait la teuf toute la nuit.
Mais des punks assez divers quand même.
Oui, il y a une diversité dans le punk, il faut le savoir.
Il n'y a pas que le punk à chien ?
Il n'y a pas que le punk. Non.
Pas dans ce livre.
Pierre-Marie, il n'y a pas que des punks à chiens dans le monde.
Mais c'est ton roman le plus dystopique. Quand on lit, par exemple, quand l'humanité a niqué la fantaisie, ou même Pampan ou Pam Pam, on n'est ni dans l'utopie. Pam Pam. On n'est ni dans l'utopie, ni dans la dystopie. On est dans la critique caricaturale.
Oui, alors j'ai fait des nouvelles beaucoup plus dystopiques, mais je pense que tu ne l'as pas forcément lu.
Les dirigeables.
Dans l'anto sur le travail de la Volt. Où là, c'est vraiment de la dystopie, où c'est une sorte de mini-monde qui tourne sur lui-même avec des gens qui sont. Qu'on pousse à travailler pour. Ce qu'on appelle des bullshit jobs, en fait. Mm-hmm. Avec une sorte de. En fait, c'est de hiérarchisation de la société. C'est un peu le monde de l'entreprise, enfin de l'entreprise un peu parisienne, on va dire, qui est transformé en mini-monde, quoi.
À vous écouter tous les deux, excuse-moi, je t'ai encore coupé. À vous écouter tous les deux, on a l'impression que utopie, dystopie, ce sont des méta-genres, des méta-catégories de la littérature, et qu'au final, tous les romans se classent soit en utopie, soit en dystopie. Star Wars, c'est une dystopie. Star Trek, c'est une utopie. Pourtant, on est dans de la science-fiction. Qu'est-ce que vous en pensez?
Justement, je pense qu'il y a des textes qui se classent dans ni l'un ni l'autre, hein, parce que là, on est quand même sur des histoires de société. Donc, c'est pas forcément le cas de tous les livres. Moi, j'aime bien aussi faire des textes qui soient très nature. Donc, on est dans le monde sauvage et on s'écarte un peu justement de ces sociétés pour rentrer dans des mondes pleins d'une nature profonde, avec les mythes, de la sauvagerie. Je pense aux loups chantants, par exemple, qui sont quand même très loin de ces questions-là, où on suit un personnage qui veut sauver sa sœur, qui l'emmène à l'hôpital à des milliers de kilomètres de là avec son traîneau à chien, et qui donc est suivi par une meute de loups qui sont comme des sirènes et qui essaient de l'attirer avec leur chant. On n'est pas dans la dystopie, je pense pas.
Mais ta dernière duologie, l'épée, la famine et la peste, on est pile dans une dystopie.
Ça ressemble à. En fait, donc il y a, pour en parler rapidement, c'est un univers qui est envahi par les araignées. Et les araignées tissent dans la tête des hommes leur toile, et les pensées des hommes s'engluent dans la soie, dans les toiles, ralentissent. Les gens deviennent mélancoliques, dépriment, s'éteignent. Donc. Oui, c'est joyeux.
La
mine sombre de Pierre-Marie. Mais donc qui on accuse de ce mal, c'est on accuse les sorcières araignées, on accuse les femmes, et l'Inquisition va s'en prendre aux sorcières, aux femmes. Donc en fait, de quoi je parle des choses qui arrivent dans nos sociétés. Oui. Est-ce que c'est une dystopie? C'est notre histoire.
Quelque chose à rajouter chez les punks? Est-ce qu'il y a ce sexisme?
Ce
sexisme?
Non, pas du tout. Non, ils ont autre chose à faire qu'être con. Par rapport à Star Wars, je pense pas que c'est une dystopie. Hein. Je vois pas le côté dystopique dans Star Wars. C'est juste une sorte de transposition d'un conflit armé et puis de puis tu me sens des trucs bizarres qui se passent dans l'espace, mais je vois pas le côté. Il y a des méchants et des gentils, ouais.
Oui, il y a un côté manichéen, mais ce qui était bien avec la première trilogie des années 70, c'est qu'elle était extrêmement optimiste, mis à part le deuxième opus, où ça finissait avec la mort de l'archétype mauvais. Et puis après, ils ont fait deux autres trilogies, dont la dernière trilogie est quand même extrêmement pessimiste, où même tuer l'archétype du méchant, l'empereur, ce n'est pas la fin de l'Empire, et surtout, ce n'est pas la fin de cet autoritarisme.
Je sais pas, moi je me suis arrêté au. J'ai vu les trois premiers quand c'est sorti, quand j'étais jeune, et puis j'ai vu le premier de la suite et j'ai fait oula, c'est pas pour moi là, je suis trop vieux. Mais je sais pas, l'idée générale, c'est pas une dystopie quand même. Même si il a fallu peut-être. Mais bon, j'aime beaucoup bébé Yoda, donc je leur pardonne tout.
C'était la caution mignon pour ramener des personnes qui n'avaient rien compris à Star Wars vers cette série. Bah merci beaucoup tous les deux. On se retrouve dans une heure à peu près pour une table ronde pour parler de la moralité et des carcans qu'offre l'imaginaire avec la moralité.
Merci.
Un grand plaisir. Et puis Aurélie, le mot de la fin.
Il faut que je choisisse une musique, c'est
ouais,
ça.
Ouais, je crois que j'ai trouvé.
Alors je vous propose Florence and the Machine et 7 DBS.
Exact.
I'm
Florence and the Machine, c'était le choix d'Aurélie Wallenstein. Et c'est l'heure de la rubrique Agenda dans Imaginaire. Donc on a deux événements à vous annoncer. Enfin, moi je voulais parler d'un truc, mais j'aurais pas le temps. Parce qu'en plus, c'est une expo qui a lieu en région parisienne. Je vous en parlerai dans une prochaine émission, parce que l'expo va jusqu'au mois d'août. Donc on a le temps d'y aller. C'est l'expo Magic Pokémon & Co. au musée français de la carte à jouer, donc qui est à Issy-les-Moulineaux. J'ai découvert ça en me promenant dans Paris, en fait, j'ai vu l'affiche. Je dis, bah non, finalement, on va pas au Louvre, on va à ça. Et du coup, j'ai découvert un peu quand même ce que c'était que le JCC, les jeux de cartes à collectionner, d'où ça venait et tout, Magic et tout, comment ça s'est développé. Et puis, il y a pas mal de dessinateurs français, en fait, d'illustrateurs qui ont travaillé aussi, notamment sur Magic. Donc, voilà. Si vous êtes en région parisienne, allez faire un tour au musée français de la carte à jouer ici, les Moulineaux, pour voir cette expo, mais je vous en parlerai peut-être un petit peu plus en détail dans une prochaine émission, parce que là, on va parler de deux événements qui ont lieu à Angers. Donc d'abord, le Club Crayon,
Crayon, c'est le 3 juin, donc c'est sur une journée, ça doit être entre 11h et 18h ou 20h.
20h, ouais.
20h, donc si vous voulez apprécier de jolis coups de crayon, bien allez-y. Parce que Romain, tu m'avais dit qu'il y avait ceux qui ont fait des affiches de lévitation.
Ouais, il y aura les Arrache-toi un œil, effectivement. D'ailleurs, qui ont fait une expo tout récemment à la Tour Saint-Aubin. Un peu dans le, comment je dirais, le pré-festival lévitation qui a eu lieu ce week-end au Shabada. Mais où il y a eu des animations un peu pendant un mois. Notamment une séance de cinéma aussi dont on aurait pu parler. Au Gaumont. Et aussi, il y a d'autres artistes que je connais, c'est Fortifem, qui est un duo peut-être des Nantais à une époque, je crois qu'ils sont partis loin maintenant, enfin. Et eux, je les ai connus, je pense, par la scène métal, en fait. Parce que c'est des gens qui ont fait pas mal de visuels pour le métal. Et notamment des affiches pour Rammstein, quand même. Mmh. Excusez du peu.
Et c'est à l'espace Welcome, donc
En
dessous des salons qui en ont voilà. Pris, là où on était. Donc, ouais. On va y aller, pourquoi pas aussi par la suite faire des choses avec eux, à voir. Donc,
d'habitude, c'est vrai que
la réussite.
Ouais, tout à fait, c'est leur première édition. Mmh. Et puis la salle, eh ben en fait, je la connais pas parce que moi j'ai plutôt l'impression que c'est des thés dansants qu'on
lit. Oui, et puis aussi là-bas. Pour pour les élections là, les bureaux d'électeurs.
Bon, et sinon il nous reste 20 secondes pour en attendant les voix du scénario.
Du
pour
monde au balcon. Ouais. De Candice Roger, donc qui est l'illustratrice.
Affiche Brain.
Donc de notre couverture, la très belle couverture de notre anthologie Double Jeu que vous pouvez commander donc sur notre site. Et donc le vernissage a lieu le 1er juin rue d'Iéna. Donc si vous voulez apprécier aussi le travail de Candice et d'autres personnes.
Allez, c'est parti, allez-y. On se retrouve dans deux semaines.
www.radio-g.fr.
Le scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voix du scénarium.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y avez.